بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité, après le mois de Ramadan, après une petite trêve, après le Ramadan également, de reprendre ces programmes de tafsir al-Qur'an al-Azim, les commentaires du Qur'an. Et nous rappelons qu'avant le mois béni de Ramadan, nous étions en train de commenter le surat al-Ghashiyah. Et les versets qu'on avait vus jusqu'à maintenant, c'était depuis donc le début, jusqu'à la description du paradis, jusqu'à dans les versets qu'on a vus depuis le surat al-Ghashiyah, on fait un petit récapitulatif. On avait vu que tout d'abord Allah Azza wa Jal rappelle quelle est l'importance de la fin du monde, le rassemblement, le retour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah Azza wa Jal rappelle à l'être humain que le jour de Qiyama, il y aura deux catégories de personnes. Il y aura des gens qui auront le visage épanoui et il y en a d'autres qui seront apeurés. Ceux qui auront le visage épanoui vont constater que l'ensemble de leurs œuvres, l'ensemble de leurs bonnes actions sur ce dunya a été profitable. Et ils vont voir le fruit de la totalité de leurs bonnes actions et leur éloignement des péchés. Ils vont voir les récompenses, le résultat, le jour de Qiyama, et ils seront satisfaits du parcours qu'ils ont fait dans ce dunya. Et c'est le verset « Lisa'iha radia », satisfaits du parcours qu'ils ont fait dans ce dunya. Et puis par opposition, il y aura les personnes qui seront attristées parce qu'ils vont se rendre compte du jour de Qiyama que la vie qu'ils ont passée de ce dunya à la recherche des plaisirs, à la recherche de la satisfaction, de leur pulsion, de leurs besoins immédiats, et pour cela ils ont accompli des interdits, et pour cela également ils n'ont pas fait les ordres, ils n'ont pas obéi aux ordres d'Allah Azza wa Jal, et là ils vont payer cash, ils vont voir quelles sont les conséquences de leur vie dans le mauvais chemin. Et ensuite dans les versets, ensuite on avait vu brièvement une description. On a vu la description du... il y avait d'abord la description des gens de l'enfer avec les châtiments de Ahl Jahannam, des gens de l'enfer. Et ensuite, ça c'était la dernière leçon qu'on avait vue, Wujuhun yawmayadhin na'ima, la description du paradis qui sera accordé aux musulmans avec, comment Allah Azza wa Jalla explique qu'il y aura des fleuves de le paradis, il y aura des divans, il y aura des coupes qui sont posées, etc., etc. Donc ça c'est la description des bienfaits des gens du paradis, ceux qui auront réussi leur vie de ce dunya. Maintenant, on passe à un autre type de discours. Lorsqu'Allah Azza wa Jal cite les versets suivants, révèle les versets suivants, « Fala yandhuruna ila al-ibli kayfa khuliqat », les versets qu'on a lus. Allah Azza wa Jal, ne considère-t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel, comment il est élevé, et les montagnes, comment elles sont dressées, et la terre, comment elle est nivelée. Allah Azza wa Jal rappelle à l'homme, rappelle à l'être humain d'une manière générale, que c'est Allah Azza wa Jal qui est le créateur de tout ce qu'il y a autour de nous. Et que cette personne qui n'a pas cru au signe d'Allah, cette personne qui n'a pas cru au verset qui était révélé au prophète alayhi salatu wassalam, et qui donc ne croyait pas au jour où ils allaient retourner auprès d'Allah Azza wa Jal, donc ces gens-là, ils auraient dû observer la création qu'il y a autour d'eux, et méditer sur ce qu'Allah Ta'ala a créé, et déduire par cette méditation, par cette réflexion, que ces choses-là ne peuvent exister s'il y a un créateur. Donc ça c'est un discours très général qui s'adresse à ceux qui ne croient pas en Dieu, qui s'adresse à ceux qui sont dans l'islam et qui font énormément de péchés, qui finissent par oublier Allah. Et le discours peut être, d'une manière générale, un rappel pour le musulman que n'oubliez pas que tout ce qui existe autour de nous, c'est des makhlouqas, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en méditant sur la grandeur et la perfection de la création d'Allah, cela doit augmenter le iman du musulman. tout comme celui qui n'a pas la foi, lorsqu'il va observer tout ce qu'il y a autour de lui, il arrivera à la déduction que si ces choses-là existent, absolument il faut qu'il y ait un créateur pour avoir organisé les choses de ce monde avec une telle perfection. Et là, Allah Azza wa Jal attire l'attention des gens à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, met le message pour tous les êtres humains jusqu'au Qiyamah sur une de ces créations, sur une de ces makhloukats, une de ces créatures, un animal, et Allah Ta'ala appelle ces gens-là, il les invite à méditer sur, je ne dirais pas la perfection, mais sur la complexité de la création de cet animal, et cet animal c'est le chameau. Lorsqu'Allah a dit Afala yandhuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, ne considèrent-ils donc pas les chameaux comment ils ont été créés? Voilà. Et pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala cite l'exemple des chameaux? Premièrement, les ulama disent que d'une manière générale, Allah Azza wa Jal, ainsi que c'était la sunna du prophète, invite les gens à réfléchir sur les choses qu'ils voient, à réfléchir sur les choses qui sont autour d'eux. Bon, ça c'est une des raisons. Ça c'est surtout la hikmat, la sagesse, dans les exemples cités par le prophète. Et là, principalement de le verset, cet animal a été choisi parmi tous les animaux qui existaient dans la péninsule arabe, dans le monde entier, parce que c'est certainement un des animaux les plus ajib, les plus incroyables, qui a le plus de khususiyat, qui a le plus de spécificité, qui a le plus de qualité, qu'on ne retrouve peut-être pas dans d'autres créatures, dans d'autres animaux. Parce qu'à l'époque, les Arabes utilisaient le chameau, bien sûr, comme monture. Il utilisait également le chameau, il pouvait traire le lait de la chamelle, donc il buvait du lait de la chamelle, et s'il fallait abattre un jour l'animal, ben il pouvait manger de la chair de cet animal également. Ils utilisaient la peau, c'est-à-dire le cuir canné de cet animal pour faire leur tente ou les vêtements ou des gourdes ou alors des récipients. Donc c'est un animal qui était très utile aux Arabes à cette époque. Il y a même des recherches récentes qui ont été faites par une doctoresse, une dame spécialiste en médecine, je ne sais pas dans quelle branche, elle a un doctorat concernant le cancer, les recherches là-dessus, et sur le plan mondial, c'est une saoudienne, sur le plan mondial, ses recherches ont été reconnues par l'Organisation Mondiale de la Santé, je ne sais pas quelle association, quelle organisation, puisque l'urine du chameau a des propriétés, bi'idhnillah, qui peuvent contribuer à soigner les personnes qui sont atteintes de cancer. Et il y a eu ce hadith à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, où il y avait des gens qui venaient s'installer à Madina Munawwara, ils étaient tombés gravement malades. Ils avaient, si je ne me trompe pas, des symptômes comme le ventre qui gonflait. Et le prophète alayhi salatu wa salam avait dit à ces gens d'aller habiter un peu dans les écarts. Ils devaient boire du lait de chamelle et ils devaient également consommer un peu de l'urine des chameaux. Et par cela, ils ont retrouvé le shifa, ils ont retrouvé la santé. Donc c'est vraiment un animal qui est hors du commun. Également, durant un voyage, une fois pendant le Hajj, on avait la chance. On avait parmi nous une personne, un ancien champion de la Réunion, du rallye, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, les tours, le tour de la Réunion, très faible. Donc c'est un spécialiste de sport automobile. Et pendant un ziyarat, pendant une visite de Makkah al-Mukarrama, on est en train de visiter le site d'Arafat. Et là, la personne m'a dit que justement, une grande compagnie, je ne dirais pas le nom de la compagnie, une grande compagnie qui fabrique des pneus utilisés pour les voitures normales, mais également pour les voitures de rallye. Bref, ils ont analysé l'adhérence qu'il y a par rapport aux sabots du chameau sur le sol pour élaborer un genre de pneu, un genre de caoutchouc, un genre de matière qui aura la même adhérence pour leur voiture. Donc ça c'était une petite information sur le plan technique. Donc pour qu'on comprenne bien que même si vous analysez, vous observez comment un chameau se déplace, la manière dont il bouge ses pieds, comment ses pattes et ses sabots s'adhèrent au sol, c'est vraiment un animal qui est différent du bétail, de la race caprine ou autre chose. C'est vraiment un animal de lequel nous voyons la grandeur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Il dit également que cet animal qui est très haut est capable de porter des charges extrêmement lourdes qu'un cheval ne pourrait porter ni je ne sais pas quoi, quel animal encore, ni une vache ou autre chose, voyez. Et cet animal est capable de parcourir de longues distances sans avoir besoin de boire régulièrement. Un cheval pouvait faire une journée, hein, il va aller au galop, mais à un moment donné, s'il n'a pas d'eau, le cheval ne pourra plus continuer. Contrairement au chameau, à qui Allah Ta'ala a donné, c'est subhanallah, hein, comment est-ce que les gens, les scientifiques, peuvent oser penser que ça c'est le travail de la nature, que ça c'est le hasard qui fait qu'il y a un animal comme ça, qui a un réservoir sur son dos, subhanallah. Qui a un réservoir, quand il boit de l'eau, il peut boire je ne sais combien de dizaines de litres d'eau, et la totalité de l'eau ne va pas se concentrer dans son estomac, mais l'eau qui en plus va être stockée dans la bosse, hein, la bosse du chameau, et quand le chameau a soif, ben, subhanallah, il y a un système d'alimentation de l'eau qui fait que le chameau ne sera jamais déshydraté tant que sa bosse sera remplie d'eau. Mais qui peut dire que c'est la nature qui a créé cet animal comme ça? Comment un être humain sensé, qui est, comme on dit, alal fitra, qui est dans l'inéité, hein, qui comprend, qui analyse les choses, comment une personne peut se dire que ça c'est le croisement de gaz, fusion de gaz qui a créé telle planète, il y a eu tel microbe, il y a eu tel développement de bactéries, il y a eu le premier, c'était un poisson, en plus le poisson a eu des pattes, manchettes, etc., jusqu'à devenir singe, dès qu'il devient homme, et tel. Na'oudoubillah. Quand nous voyons la diversité qu'il y a dans la création d'Allah Azza wa Jal, analyser le monde des insectes, le monde des oiseaux, etc., après, on n'a pas besoin d'aller aussi loin que ça. Restons sur l'exemple qui est cité dans le Coran et qu'Allah a cité à juste titre, on ne peut que réaliser que cet animal, hein, subhanallah, a toutes les qualités pour vivre dans ce milieu. A toutes les qualités pour vivre dans ce milieu désertique, pour survivre, dans ce milieu désertique. Et absolument, il faut qu'il y ait un créateur derrière ça. Impossible que la nature ait été faite d'une manière hasardeuse pour donner naissance à un animal avec une telle perfection. Subhanallah. Ça, un être humain qui réfléchit, qui comprend les choses, ne peut que déduire la présence du Créateur en analysant la création. C'est ce qu'on appelle le Tawhid Rububiya, l'unicité d'Allah dans la création. Et à partir du Tawhid Rububiya, on va déduire le Tawhid Uluhiya, l'unicité d'Allah dans le culte. Et lorsqu'on va attester qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré, parce que c'est lui qui a tout créé, ben on va attester, ça c'est la troisième étape, le tawhidullah fil asma wa sifat, on va se dire que ce créateur ne peut être que parfait. Il a toutes les qualités, toutes les sifat qui peuvent exister, et dans chacune de ces qualités, il a le kamal, il a, hein, ses sifat sont complètes, il n'y a pas de naqs, il n'y a pas de manquement. Donc, en analysant la création d'Allah, l'être humain doit pouvoir déduire qu'il y a un créateur. Et ça, c'est donc un reproche qu'Allah a fait à ces gens qui vont être ressuscités et qui n'ont pas cru au signe d'Allah. Si seulement ils avaient regardé, ne serait-ce que cet animal qu'ils utilisent tous les jours, le chameau, comment le chameau a été créé. Puis, il y a pas mal de choses, mais on ne va pas faire un cours de zoologie non plus. Hein, les ulama disent également, regardez, c'est un animal qui est très haut. On ne peut monter sur un chameau s'il est debout. Au garrot, ça vous fait 1m80 ou 2 mètres, on ne peut pas monter, on ne va pas s'amuser à marcher avec une petite échelle non plus. Et donc cet animal, pour qu'on puisse le monter, s'assoit. Et c'est le seul animal que vous pouvez vous asseoir sur son dos, et là il va se lever. Il a cette force de ses pattes, de ses jambes pour se lever avec une charge lourde. Un cheval, comment on monte un cheval? On le monte quand il est debout. Hein, on ne va pas faire asseoir un cheval pour s'asseoir, et puis il ne pourra pas se mettre debout. Les jambes du cheval, il pourra courir vite, mais il ne peut pas passer de la position assise à la position debout avec une charge de 60-70 kilos. Ça aussi, c'est la hikmah d'Allah. Comme cet animal est très haut, ben il faut qu'il s'assoie pour que l'homme puisse l'enjamber, monter sur son dos. Et de la position assise, il peut porter la charge de la personne et les bagages et autres choses et se mettre debout. Donc, c'est vraiment un animal qu'Allah a créé pour être au service de l'être humain. Ah, donc ça c'était quelques points concernant la perfection de la création d'Allah à travers cet animal. Donc afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, et en commentaire on passait dit que Allah Ta'ala n'a pas cité l'exemple d'autres animaux alors que les Arabes voyaient d'autres animaux autour d'eux. Il se fut une époque où il y avait même des chameaux, il y avait des éléphants, il y avait également des lions dans la péninsule arabe, hein, il y a des hadiths qui parlent de l'existence de lions dans le désert d'Arabie avant, à une certaine époque, voyez. Mais Allah Ta'ala s'est suffi de cet animal parce que c'est vraiment l'animal qui comporte le plus de qualités. Premier point. Deuxième point, wa ila samaa'i kayfa rufi'at, et le ciel, comment il est levé, on va aller un petit peu plus vite. Deuxième point de réflexion, Allah Ta'ala invite l'homme à juste lever la tête, à regarder le ciel qui est au-dessus d'eux, comment est-ce qu'Allah Ta'ala a créé ce ciel. Et dans le verset, Allah Ta'ala dit, la khalqu as-samawati wal-ardi akbaru min khalqin nas, que la création des cieux et de la terre, c'est encore plus complexe, encore plus fort, encore plus grand que la création de l'homme. Si quelqu'un se met à analyser le fonctionnement de l'être humain, hein, le mécanisme qu'il y a dans Subhanallah, quand quelqu'un mange, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que le yani avec la salive, ça va être mastiqué, ça va être absorbé, assimilé par l'estomac, ça va être digéré, ce qui n'est pas propre, alors que ce qui n'est pas profitable va être évacué et les vitamines vont être alors, etc. Si on analyse tout ça, on se rend compte que vraiment cette machine humaine est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est beaucoup plus complexe que la fusée Ariane, c'est beaucoup plus complexe que les satellites, qu'un iPhone 4 ou que n'importe quoi. Subhanallah, l'être humain, c'est une machine qui est inimitable. Personne ne peut fabriquer, ne serait-ce, on ne parle même plus d'être humain, même un être vivant, n'importe quel être vivant, aucun scientifique ne pourra en fabriquer. On pourra cloner, comme on a déjà expliqué avant, ils pourront prendre une cellule souche et cloner, mais c'est exactement comme si que je prends ce livre et je photocopie. Si je photocopie ce livre, et que je l'agrandis, je le mets en couleur, je scanne, j'enlève des passages, j'illustre ce livre. Est-ce que je peux dire que c'est moi l'auteur? Bah, Wallah, j'ai rien fait, moi. Je n'ai fait que retravailler quelque chose qui existait déjà. Hein. Donc, les scientifiques ne peuvent pas dire qu'ils ont créé la vie en clonant. Non. La moindre créature, le moindre microbe, le ruh qu'il y a dedans, et l'organisation, même un microbe mange, subhanallah. Alors là, on parle de nanomètres, de micromètres, je ne sais pas comment on dit ça. Comment un microbe lui-même peut manger, il a un estomac, il peut assimiler, il peut évacuer aussi les impuretés. Quand on parle de micromètres, subhanallah, ça c'est vraiment la création d'Allah. Et tout ce qu'on voit là, c'est rien. La machine humaine, c'est rien par rapport à la création des cieux et de la terre, comme le verset qu'on vient de citer nous le prouve. Et donc, concernant la création du ciel, le ciel fait partie de ces créations qui ne sont pas reconnues par les scientifiques, qui ne sont pas encore reconnues par les scientifiques. La notion de ciel n'existe pas pour les scientifiques, pour les spécialistes des planètes, etc. Enfin, pour eux, le ciel, bon, c'est le reflet de je ne sais quoi, de la mer par rapport au ciel, ou par rapport aux nuages, je ne sais pas quoi. Enfin, mais pour eux, la notion de ciel n'existe pas. En fait, ils n'ont pas encore découvert, parce qu'ils n'en sont qu'à notre système solaire encore. Il n'y a pas eu une fusée, comment peuvent-ils oser dire que le ciel n'existe pas alors qu'aucun être humain n'est allé plus loin que la Lune? Il n'y a pas d'être humain qui est allé sur Mars jusqu'à maintenant. Hein, jusqu'à, depuis, il n'y a pas eu, il y a rien eu. Hein, d'accord, il faut m'informer s'il y a eu quelque chose. Il y a bien eu des films qui ont été tournés, Mars rouge, je ne sais pas quoi, mais c'était un fiasco déjà. Et il n'y a pas eu un être humain qui a dépassé la Lune, c'est-à-dire qui a dépassé le bout de son nez. D'accord, c'est comme si que quelqu'un, de toute sa vie, n'a jamais quitté, il a quitté sa nid. Le voyage le plus long qu'il a fait, c'est passer le littoral et jusqu'à Saint-Paul. Il a dit que non, la Chine n'existe pas, le Canada n'existe pas, la Russie n'existe pas. Abruti au nom de quoi? Tu n'as jamais pu dépasser la ville de Saint-Paul, la ville du port, et tu vas me parler de la Russie, du Canada, de Moscou, de New York. Ce sont des villes imaginaires, ça n'existe pas. Pareil, l'être humain n'a jamais dépassé, comme on dit, la Lune, et il va dire que le ciel n'existe pas, qu'il n'y a pas telle, telle chose. D'ailleurs, quand on parle de ciel, c'est au-delà de la Lune, de Pluton, de tout ce que vous voulez. C'est au-delà de tout ce qu'il y a comme différents systèmes solaires, différentes planètes, et le ciel, c'est une distance que l'être humain ne pourra de toute façon jamais atteindre. Les djinns et les shayatines peuvent atteindre le ciel, mais sous certaines conditions, et là aussi, il y a une étroite de surveillance, ils ne peuvent pas aller au-delà, ils sont chassés par les malaïkas. Les anges, eux, peuvent monter au ciel, ça oui. Les anges, eux, peuvent monter, bien sûr, et redescendre par ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque notre prophète, alayhi salatu wa salam, est monté au ciel pour le voyage nocturne, le Mi'raj, après l'étape du Isra, après avoir été Baytul Maqdis, du Baytul Maqdis pour monter jusqu'au ciel, notre prophète a dû monter sur une monture spéciale. C'est-à-dire qu'une monture du dunya ne peut pas atteindre le monde de l'invisible. Il fallait que ce soit une créature, une monture qui vient de l'au-delà, le Burak, qui a permis au prophète de monter à une vitesse exceptionnelle pour arriver au premier ciel jusqu'à arriver au septième ciel. Donc, et qu'Allah a élevé les cieux et que ces cieux tiennent sans qu'il n'y ait de poteaux, sans qu'il n'y ait de pylônes. Ah, on ne va pas en dire plus sur le ciel, c'est suffisant. Et les montagnes, comment elles sont dressées. Ah, et concernant les montagnes, les ulama, rahimahumullah, disent que analyser la création d'Allah, la complexité là aussi de la création d'Allah dans une montagne. C'est quoi une montagne pour nous? C'est un bloc de cailloux, ça peut être gris, ça peut être rouge, ça peut être terreux ou alors rocailleux ou volcanique ou autre chose. Mais pour nous, c'est quelque chose, c'est comme un gros galet qui est là. Mais subhanallah, on dit que si l'humanité entière se réunissait pour créer une montagne, fabriquer une montagne, quelque chose d'aussi solide qu'une montagne, personne ne pourrait le faire. Regardez n'importe quelle construction de l'être humain, n'importe quel immeuble, bâtiment, tour ou autre chose, s'il y a un tremblement de terre, ou s'il y a, je ne sais pas, une bombe atomique, ou alors on restera sur un tremblement de terre, ben, n'importe quel bâtiment serait détruit par ce genre de cataclysme. Alors que lorsqu'il y a un tremblement de terre, vous avez entendu parler de montagnes qui sont détruites par un tremblement de terre. Là, Allah. La montagne, c'est quelque chose de tellement solide, ça c'est la création d'Allah. Ce n'est pas juste un gros caillou, c'est la création d'Allah, et cette création d'Allah-là, elle est extrêmement solide. Et elle sera détruite que le jour de Qiyamah, que le jour de la fin du monde, lorsque les montagnes vont s'envoler comme du coton, lorsque le dunya sera détruit. Et certains ulama, ils sont même d'avis que, ça, il n'y a pas de source vraiment, c'est peut-être des déductions, que les montagnes contribuent à l'équilibre de la terre. Certains savants sont d'avis que les montagnes, par exemple en Chine, il y a telle chaîne de montagnes, en Suisse, en Afrique, Taïb, dit qu'il y a un certain équilibre de ce monde par rapport au poids des montagnes dans différents continents. Wallahu a'lam, ça, il n'y a pas de hadith, il n'y a pas de preuve, vraiment, c'est une déduction qui peut être plausible, qui peut être correcte. Donc, la création d'Allah à travers ces montagnes, hein, qui sont bien au-delà d'un gros bloc de cailloux, c'est quelque chose qui est inimitable et qui est solide, qui résiste à tout. « Wa ilal ardi kayfa sutihat » et la terre, comment elle est nivelée. Allah Ta'ala fait en sorte que la terre soit nivelée pour que l'homme puisse y habiter et que cette terre, hein, elle permette aux hommes de vivre avec les plantations, etc., etc. Donc, d'une manière générale, hein, nous voyons que Allah Azza wa Jal invite l'être humain à réfléchir sur ces quatre signes. Un animal, le chameau, sur les montagnes, le ciel et la terre, comment elle a été aplanée. Et une petite parenthèse concernant la terre, par rapport à ce verset, « Wa ilal ardi kayfa sutihat », certains savants, et là on comprend bien que l'être humain peut se tromper. Certains grands savants, comme Ibn Qayyim, rahimahullah, si je ne me trompe pas, il avait déduit par rapport à ce verset que la terre était plate. Elle dit qu'on ne peut pas dire que la terre est ronde parce que Allah Ta'ala dit ce verset et la terre, comment elle est nivelée. Donc, Ibn Qayyim a déduit de ce verset que la terre est plate, elle n'est pas ronde. Et d'autres ulama après lui, hein, ils ont fait d'autres recherches, ils ont déduit à travers d'autres versets, on ne va pas entrer dans les détails, lorsque Allah Ta'ala dit Ida sama'un shaqqat, c'est-à-dire ça se passera au jour de Qiyamah, ou alors Wa ida al-ard muddat, lorsque la terre sera aplanie, mais ça ce sera le jour de Qiyamah, et pas mafhoum ou khalafa, par déduction, hein, il prouve que cette terre, pour le moment, n'est pas aplanie. C'est le jour de Qiyamah que la terre sera planée. C'est comme si vous prenez une boule de farine, une boule de pâte, hein, d'accord, et qu'on l'aplatit avec un rouleau. Ben, le jour de Qiyamah, là, la terre sera étalée. La terre sera aplanie et là, la totalité de la création sera ressuscitée sur cette terre. Pardon. Également, les ulama disent que, analyser, hein, les mers qui tiennent sur la terre, malgré le fait que cette terre soit ronde, comment est-ce que l'eau puisse tenir? Ça, c'est la création d'Allah. Et cette loi physique qu'on appelle la pesanteur, ça, c'est une loi physique qu'Allah Ta'ala a fixée pour ce dunya. Maintenant, dans l'au-delà, comme on l'avait déjà expliqué dans d'autres programmes, dans l'au-delà, ces lois physiques n'existent plus. Dans l'au-delà, les lois physiques que nous connaissons, à travers lesquelles nous déduisons d'autres choses, entre autres la pesanteur, dans le akhirat, ces lois physiques-là ne marcheront plus. Hein, on avait vu dans notre hadith, lorsque notre prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam explique que le jour de Qiyamah, il y aura des gens qui seront donc sous le soleil, le jour du Mahshar, et ils vont tellement transpirer à cause de leurs péchés que certaines personnes auront leur transpiration au niveau de la cheville, d'autres au niveau de la jambe, au niveau du genou, etc., etc. Certains seront presque noyés jusqu'au cou de la transpiration. C'est-à-dire des gens qui sont parfois côte à côte, mais le niveau de transpiration de ces gens sera différent. Ce qui, sur le plan physique pur, n'est pas possible. Hein? Si je prends un plateau, hein, d'une épaisseur, d'une hauteur de 2 ou 3 cm, si j'y déverse un demi-litre d'eau, ben, l'eau va s'étaler. Ce n'est pas possible que sur une surface plane, on ait 7 cm d'eau, et là 2 cm, là 1 mm, et là 15 cm. Ça, ce n'est pas possible. Voyez? Mais le jour de Qiyamah, il y aura des gens qui seront peut-être, ils sont tous sur une terre qui est aplanie. On vient de dire que la terre du Mahshar est aplanie. C'est une terre plate. Il n'y a pas un iwajan ou un amta, ni fossé, ni endroit surélevé. Mais malgré ça, sur une surface qui est plane, il y aura des gens qui seront noyés de la transpiration, d'autres moitié du corps, et d'autres qui n'auront strictement aucune souffrance par rapport à ça. C'est-à-dire que les lois physiques de ce dunya ne sont plus les lois physiques du akhirat, les lois physiques de l'au-delà. On va terminer avec ça, inshallah. Et ensuite, on passe à un autre type de discours. Soit la baraka de le temps. Je pensais qu'on a déjà fait 40 minutes, on est à 25. On passe à un autre type de discours après qu'Allah rappelle à ces gens-là qu'ils auraient dû réfléchir sur la création d'Allah avant de dire que tout ça n'existe pas, qu'il n'y aura pas de jour du jugement dernier. Maintenant, on passe à un autre type de discours. Fadakir. Fadakir innama. Anta mudakir. Et là, Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demande de faire le rappel aux hommes. Et ce rappel est général. C'est-à-dire le rappel que le prophète doit faire, ce n'est pas que pour les Arabes. Ce n'est pas parce que, il faut faire bien attention, ce n'est pas parce que l'exemple du chameau a été cité dans ce verset que le discours est adressé uniquement aux populations qui vivent avec les chameaux, c'est-à-dire aux Arabes, là, wallah. Parce que le verset qui vient après, un peu complexe, ça quand même, hein. Le verset qui vient après, fadakir, il est âme, il est général. C'est-à-dire, fais le rappel. Et fais le rappel, c'est à qui? Aux Arabes, aux non-Arabes, à l'humanité, à toute la Ummah, quelles que soient les époques. Donc, le verset fadakir est une des preuves que c'est un message qui est universel pour la totalité des Ummah, la totalité des populations, sans limite géographique, sans limite temporelle. Maintenant, ce rappel que le prophète a fait hein, depuis qu'il a eu la rissa, la révélation, jusqu'à son décès, est-ce que ce rappel est profitable pour la totalité de l'humanité? Non. Parce qu'à l'adresse du Coran, « فَإِنَّ ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِ » que le rappel est profitable pour le croyant. Ça veut dire que celui qui a iman dans son cœur, on va lui réciter des versets du Coran, on va lui faire le rappel d'Allah, la crainte d'Allah, et le message trouvera le capteur, le récepteur. C'est-à-dire que le iman est là, donc la personne va comprendre le message qu'on fait passer. Mais quelqu'un qui n'a pas de iman, on pourra lui lire des versets du Coran ou lui parler d'Allah. S'il n'y a pas de foi dans son cœur, s'il n'a pas l'envie d'écouter, alors le message n'atteindra pas son objectif. Et cela nous fait bien comprendre que la guidée est uniquement dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah ta'ala dit par la suite, فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِرْ. Tu n'es qu'un rappeleur. Ton travail, c'est de faire le rappel, d'appeler les gens vers Allah, mais sache qu'en finalité, la hidayah, la guidée est dans les mains d'Allah. Si le passage se doit de rappeler les gens, de les ramener, d'essayer de les ramener vers le droit chemin par le discours, par les mu'ajizah et autre chose, mais la guidée, en finalité, est dans les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, bon, il y a quelque chose qui est un petit peu plus affolant, c'est dans les commentaires, on passait de dire que maintenant, nous devons faire une propre analyse de notre degré de capteur de iman, quand on nous fait le rappel de la grandeur d'Allah, on nous dit de craindre Allah face à tel péché, ou si quelqu'un n'accomplit pas une bonne action, n'accomplit pas les obligations, on lui rappelle qu'Allah Ta'ala a rendu ça obligatoire, et qu'on cite des versets du Coran, et que cela ne touche pas le cœur de ce musulman. Il a dit qu'il faut faire très attention. Si on est arrivé à une situation où même on nous parle d'Allah, on nous rappelle les versets du Coran qui parlent de telle obligation ou qui parlent de tel haram, et que cela nous laisse complètement indifférents, ça veut dire que notre cas est grave. Là, on doit se faire du souci pour notre iman. Ça veut dire que le iman est tellement faible qu'il est même plus sensible au rappel du Coran, au rappel des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux sahaba qui avaient atteint le plus haut degré de foi, hein, ceux qui, « Iza zukira Allah wajilat qulubuhum » lorsqu'on parlait d'Allah, leur cœur tremblait. « Wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun » et lorsqu'on lisait les versets du Coran, leur iman augmentait. Et leur yaqin en Allah également augmentait. On avait déjà expliqué ces hadiths lorsque les sahaba allaient en voyage, ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander des conseils. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est un hadith comme ça, il avait dit juste à ces gens qui étaient venus devant, « Ittaqillah, n'oubliez pas la crainte d'Allah. » Le simple fait d'avoir rappelé à ces sahaba, les compagnons du prophète, d'avoir rappelé à ces gens la crainte d'Allah, ces sahaba se sont mis à pleurer. Ce n'était pas un grand discours, c'était juste « Ittaqillah, crains Allah. » Parce que les sahaba, ils savaient c'était quoi la crainte d'Allah. Ils avaient l'amour d'Allah dans leur cœur, ils avaient la crainte d'Allah dans leur cœur. Donc ce message trouve le récepteur. Le iman est tellement fort que le moindre rappel touchera le cœur, toucher le cœur de ces gens. Maintenant, nous, le travail de l'iman, hein, pour que les versets qu'on écoute, pour que les bayans, les durous qu'on écoute, ben, cela touche notre cœur et nous permet de revenir vers le droit chemin, nous permet d'augmenter notre degré de pratique. Et notre prophète, alayhi salatu wa salam, toute sa vie, comme on a dit, depuis qu'il a reçu « qum fa anzir », le « qum fa anzir », ça c'est le « alamiyyat da'wa ». Lorsque le prophète a reçu l'ordre d'Allah, « lève-toi et fais le rappel, mets en garde les gens », ce verset, c'est pour voir que le prophète commence la da'wa à toute l'humanité. Au début, c'était juste pour ses proches, sa famille. Mais avec ce verset, le message est devenu universel. Il se devait de rappeler n'importe quelle personne, arabe ou non arabe, qu'il fallait adorer Allah et l'accepter comme prophète. Donc, depuis qu'il a reçu le verset, jusqu'à ses dernières paroles, notre prophète, alayhi salatu wassalam, a fait le rappel, a fait la da'wa ilallah, a rappelé les gens vers Allah azzawajal. Parmi les dernières paroles que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait dit donc, dans le sakara, dans l'agonie, c'est-à-dire au moment de mourir, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, parmi donc ces derniers rappels, le prophète a sensibilisé les musulmans sur l'importance de la prière. Notre prophète était en train de mourir, il était dans le gharghara, dans l'agonie, mais parmi ces dernières paroles, il y avait as-salah, as-salah. Et ça, c'est le message que notre prophète a fait, sa risala, depuis qu'il a reçu la prophétie jusqu'à la fin. Il y a même temps de discuter avec une personne, subhanallah, moi j'avais une petite accrochage une fois avec quelqu'un qui s'obstinait à dire, un jeune en plus, subhanallah, qui n'a pas fait d'études, rien de alim, il a juste bouquiné un peu, il s'obstinait à dire que dans le Coran, il y a deux catégories de sciences. Dans la religion, il y a la science qui est accessible à tout le monde, il y a la science cachée, le zahir et le batin. On a essayé de faire comprendre à cette personne que, na'oud billah, il n'y a jamais eu un sahaba qui a osé dire qu'il y a dans le Coran ce qui est accessible à tout le monde. Il y a une science cachée qu'Allah met dans le cœur des gens que seuls les proches de na'oud billah. Ni Ibn Kathir, ni Al-Qurtubi, ni les grands mufassirs de cette ummah n'a osé dire qu'il y a un côté obscur du Coran que certaines personnes, par leur proximité envers Allah, ils ont une inspiration divine, une ilham, une inspiration divine qui leur donne accès à une science qui est cachée. Na'oudhu billah. Autrement, si c'était le cas, ben le prophète n'aurait pas accompli sa mission. Parce qu'Allah t'a dit au prophète, Ya ayyuha rasoulu, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Le prophète se devait de propager tout ce que Allah lui avait révélé. Fa'in lam taf'al, fama ballaghta risalat. Si tu ne l'as pas fait, fama ballaghta risalatak. Si tu ne l'as pas fait, tu n'as pas propagé ta mission. Et comment une personne de nos jours peut dire qu'il y a une science qui ne se trouve ni dans les paroles d'Allah, ni dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce genre de parole frise le kouf, mes chers frères. Et il y a beaucoup de gens qui tiennent ce discours. On n'est pas en droit. Subhanallah, qui sommes-nous en 2010 pour dire que il y a une science qui n'est pas accessible au commun des musulmans? C'est-à-dire que quoi, il y a des gens qui ont une relation spéciale avec Allah, ils ont des privilèges, qu'ils ont des sciences que les gens n'ont pas, ça c'est pas possible. Durant l'histoire de la Ummah, depuis le Prophète, depuis le Sahaba Tabi'in, Tabi Tabi'in, jusqu'à notre époque, il y a eu des savants qui ont fait le khidmat de din. Dans toutes les régions du monde, le khidmat du Coran par le biais du tafsir, le khidmat des hadiths par les sharh, par la recherche des chaînes de narration, par la recherche des narrateurs, la biographie des narrateurs, et personne n'a dit qu'il y a des choses qui sont cachées. Alors une personne qui va dire que moi, je connais des sciences cachées, mais alors on va en trouver dans telle région du monde, dans telle région, et à la fin, ben on aura mille et une façons de pratiquer la religion, parce que chacun dit que moi, j'ai reçu quelque chose de spécial de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, na'oud billah. Donc notre prophète, durant toute sa vie, depuis qu'il a reçu la risala, jusqu'à la fin, il a tout propagé. Allah ta'ala peut donner à une personne « attafaqquhu fi d-din ». Quand le prophète avait demandé le doua pour Ibn Abbas, Allahumma faqqihu fi d-din wa 'allimhu 'ilma at-ta'wil. C'est-à-dire que quand Ibn Abbas va lire un verset, il va comprendre avec plus, il y aura une approche qui sera différente de celle des sahaba. Il va en déduire beaucoup plus de règles que quelqu'un d'autre, même sahaba. Parce qu'Allah Ta'ala lui a donné la compréhension. Mais ça, il n'y a pas de souci, ça. Que quelqu'un comprenne plus qu'une autre personne, oui. Mais qu'il y a des choses qui n'existaient pas à l'époque du prophète, et que nous on le sait maintenant, ça c'est pas possible. Et malheureusement, il y a des gens qui restent fermes de ce discours, qui sont persuadés. Il y a même, quand on est un alim non initié, on ne peut pas comprendre certaines choses. Ça veut dire quoi? Elle dit que même si tu as appris le Coran, tu as appris le tafsir, le hadith, mais tu ne connais pas les sciences cachées, il faut être avec telle personne pour connaître les sciences cachées. Ça c'est vraiment la fin du din. Ça c'est la fin du din. Quand ce discours deviendra général, il n'y aura plus besoin de Coran, il n'y aura plus besoin de hadith, il n'y aura plus besoin de rien, parce qu'il y a d'autres sources d'alimentation qui viennent directement de la part d'Allah, et ça c'est des choses qui n'existent pas dans notre charia, qui n'existent pas dans notre religion. Et donc, pour revenir au sujet principal, notre prophète a tout propagé depuis qu'il a reçu « Qum fa'anvir » jusqu'à ce que Malik al-Maut ait repris son âme. Et les sahaba, ils en ont fait de même. Il y avait l'histoire, on va terminer avec ça, de Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Avant de mourir, hein, quand il avait été poignardé, il était dans les derniers moments de sa vie, hein, il y avait des musulmans qui venaient lui rendre visite pour la dernière fois. Et parmi eux, il y avait un jeune qui était venu voir Umar ibn al-Khattab, qui l'avait fait moulakat, salam, et puis il est reparti. Et Omar avait vu cette personne, il avait dit « Rappelez ce jeune, rappelle-lui. » Il a rappelé ce jeune, il dit que ton pantalon descend dessous de ta cheville, relève ton pantalon, c'est mieux pour toi, pour ta taqwa, etc., etc. Et Allah sera satisfait de toi. Les ulama disent que cela nous fait comprendre que Omar ibn al-Khattab, jusqu'au dernier moment de sa vie, son souci permanent, c'était le tabligh al-risala, c'était propager le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, qu'Allah nous accepte dans la compréhension de ce qu'on a pu voir ce soir, et qu'Allah dans l'istiqama peut reprendre avec un peu plus de rectitude, inshallah, un peu plus de constance et programme, et qu'Allah nous donne l'amour pour le Coran, l'amour pour la sunna de nos cœurs, et la possibilité de mettre en pratique. Wa tawfiqi illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa alhamdulillahi rabbil alamin.